J'en ai trop dit, on pourra pas tout faire.
Hein, non. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Conseiller économique de Natixis, vous avez coécrit De l'économie d'abondance à l'économie de rareté. Chez Odile Jacob, Philippe Manier, bonjour.
Bonjour.
Président de Veille Solis Communication, auteur du Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Raveau, bonjour.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris-Saint-Denis, vous avez publié Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Oh, j'imagine que les 904 millions d'euros qu'on va demander à l'enseignement supérieur, ça vous a... Parce que vous avez une particularité, c'est que ça vous touche dans votre chair, les mauvaises nouvelles, ça je le sais. Et d'ailleurs, j'ai vu que les labos publics, CNRS, INSERM ou encore l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche, sont à peu près désespérés et ils ont le sentiment d'être totalement sacrifiés, c'est votre avis. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Écologie, développement durable, c'est 2 milliards d'euros.
Non, c'est vrai que c'est étonnant. Je me rappelle pas, je voulais regarder le chiffre avant de devenir le budget total d'enseignement supérieur.
Ah, j'ai pas regardé, mais
je crois qu'en proportion, on doit être le ministère. Donc je rappelle aux auditeurs, parce que c'est quelque chose d'information qui a du mal à rentrer dans les têtes, c'est qu'il y a une séparation en France entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Ce n'est pas le même ministère. Et que donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire en gros les universités et les laboratoires type CNRS, INSERM, INRAE, etc. Donc c'est 900 millions en moins, et je pense qu'en proportion du budget total, on doit être les plus touchés.
Non, alors ça, non, je peux vous le dire. Non, les plus touchés, c'est clairement écologie, 10% du budget 2024. Ouais. Et on en a un qui est à 9,9%. Alors de mémoire, c'est tout ce qui est jeunesse et affaires sportives.
Ouais, ok, bon, bref.
Non, vous n'êtes pas les plus.
Bon, on est médaille de bronze. On est
médaille de bronze. Médaille de bronze.
C'est déjà ça.
Bon.
Je vais parler de moi, comme d'habitude, excusez-moi.
Pas trop long, hein, mais j'imagine.
Deux secondes. J'ai un compte Twitter qui est suivi par 60 000 personnes.
Oui, d'ailleurs, je trouve que sur Twitter, vous êtes plus trash que quand vous venez ici.
Non, je me suis beaucoup calmé.
Si, vous êtes plus dur sur Twitter que quand vous êtes devant le micro.
Je sais que vous ne regardez plus les tweets, monsieur Dose,
si,
vous avez bien raison.
Si,
je me suis beaucoup calmé. Bon, j'ai 60 000 abonnés, j'ai des milliers d'universitaires qui me suivent.
Oui.
J'ai fait un appel très sérieux en disant bon, les gars, on a un emploi, un des plus protégés au monde. On nous massacre. Est-ce qu'à un moment, on va arrêter de se faire humilier? On est humilié au quotidien. J'ai pas de bureau dans mon université. Les murs s'effondrent. Il n'y a pas l'électricité un jour sur deux. Nous sommes humiliés au quotidien. C'est une profession qui est soumise comme il n'y en a pas d'autres. Et donc, j'ai dit très sérieusement, est-ce que ça vous dirait pas qu'un peu, à un moment, on ait un minimum de dignité vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on fasse quelque chose comme les agriculteurs, comme les infirmiers, comme les gens qui se bougent pour de vrai, parce qu'ils ont un sens, une éthique de leur métier.
Donc un brassard en grève ou alors un tracteur
des
ou
vraies
alors
choses, c'est-à-dire aller bloquer des ronds-points, envahir BFM, entarter Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, il y a mille choses qui sont faisables. Non, je suis très sérieux, évidemment. Ce qui se passe, évidemment, gravissime. Nous, encore une fois, et pourquoi on bouge pas en fait la réalité? Pourquoi on bouge pas? Je vais faire plaisir à Philippe Manière. C'est parce qu'en fait, ils touchent pas à nos salaires. C'est qu'en fait, mes enseignants-chercheurs, mes collègues, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, je vais vous dire la vérité. Et que dans les couloirs, de quoi on parle? Du prochain colloque, j'ai un papier à rendre, j'ai ça à réviser, oh mon Dieu, je suis stressé, j'ai un référé qui m'a dit qu'il fallait que je change trois lignes. Ouais, ok, les gamins, ils crèvent, ta fac, elle s'effondre, et jamais tu bouges. Donc, j'ai fait ce message sur Twitter. Combien de réponses, même en message privé, j'ai eu des collègues?
Que dalle.
Zéro. Voilà. Donc, ils ont ce qu'ils méritent. Et donc, je dis à Bruno Le Maire, continue, Bruno, vas-y, 900 millions, c'est que le début, mais continue, vas-y, continue.
Bravo. J'imagine Eli Cohen sur un rond-point. est-ce qu'on fait bonne ou fausse route, Patrick Artus? On sent que ces 10 milliards sont arrivés d'un coup, sans prévenir. On n'aura pas la croissance. On nous sort un décret publié au Jean-Luc Fissier. Il faut moins de 10 jours pour que les ministères soient obligés de rendre leur copie. Une espèce de sentiment d'urgence incroyable. Et est-ce qu'on fait pas fausse route? Parce que, comme on le rappelait avec notamment François Eckhall, si on prend la nouvelle... Le nouveau mécanisme de stabilité et de croissance européen, on n'est pas en théorie obligé de se faire harakiri sur des quantités de dépenses en plus dans des... Enfin, quand je vous cite écologie, développement durable, emploi, travail, emploi, recherche, enseignement supérieur, c'est pas les parcs et jardins, quoi.
Alors, faut voir d'où ça vient. Ça vient des mauvaises nouvelles sur la productivité.
Ne l'explique à Paris.
En 2023, la productivité a reculé encore de 0,4% en France. La productivité du travail. Et on est à 6% de baisse de la productivité cumulée depuis 2019. Et donc, quand vous avez un effondrement de la productivité du travail, bah, vous avez moins de recettes fiscales. Et donc, on a en gros 6% de PIB en moins, ça fait 3% de déficit public en plus. Donc, tant que la productivité du travail ne se redresse pas, on aura un problème de finances publiques continuel. Alors, la réponse par la baisse des dépenses, et en particulier par la baisse des dépenses d'avenir, hein, c'est comme vous citiez, hein, les ministères concernés, donc c'est la recherche, c'est l'écologie, c'est l'emploi, etc. Et je crois extrêmement défavorable, parce que on va déclencher un processus cumulatif. On va avoir moins de dépenses d'avenir, donc on va avoir moins de PIB, mais pas seulement instantanément, on va avoir moins de PIB durablement, et on va avoir encore moins de recettes fiscales, et du coup, il va falloir qu'on remette une couche sur la baisse des dépenses.
Je traduis, moins 10 milliards égale moins 10
milliards, ça fait moins 5, ça fait 5, 10 milliards de baisse des recettes, des recettes fiscales, ça fait ex post, hein, compte tenu de l'effet sur la croissance, à peu près 5 milliards de déficit public en moins. Donc, si vous voulez gagner 10 milliards de déficit public, il va falloir doubler la baisse des dépenses. Et donc, c'est un truc qui s'appelle le multiplicateur budgétaire, et c'est d'autant plus vrai que vous avez des dépenses qui dynamisent l'économie, quoi. Et donc, je crois il aurait fallu envisager une autre stratégie, qui est la stratégie des Américains, qui est de dire, eh ben, on va pas couper les dépenses publiques, on va continuer nos programmes de dépenses d'avenir, l'Inflation Reduction Act, le CHIPS Act, etc. Ces dépenses d'avenir vont avoir un effet positif sur la productivité et sur la croissance.
Et peu importe le
déficit. Et les nouvelles règles européennes, si on fait ces dépenses d'avenir et si on fait des réformes, nous donnent 7 ans pour faire baisser la dette publique. Donc on avait le temps. Et alors je crois que le sentiment de panique, il est plutôt financier. Il n'y a aucune réaction des marchés financiers négative à ces mauvaises nouvelles sur le budget, mais le ministère des Finances s'inquiète du rating de la France. Aujourd'hui, on a moins de 50 points de base d'écart de taux d'intérêt à 10 ans vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pratiquement le plus bas historique. Donc, il n'y a même pas de signe sur les marchés financiers qui est une inquiétude. Bon, mais voilà, donc je crois que c'est une mauvaise stratégie parce qu'elle va imposer de sans arrêt recommencer à couper les dépenses.
Ben là, c'est la cellule sociale, on va en parler. J'ai un auditeur qui m'écrit un truc qui va vous énerver, hein, Gilles Ravoux. Bon, je pense qu'il dit, moi, je veux bien être humilié à 6 000 euros par mois, mais là, je...
Je suis à 3 000, mon ami.
Bon. Pour 5 heures de cours, ouais, d'accord. C'est toujours un peu... Bon. Philippe, parce qu'en plus, oui. On apprend qu'on a fait 60 000 recrutements dans la fonction publique
oui,
en 2023.
Voilà, c'est ça. Alors,
je ne sais pas comment on fait. Moi.
Non, d'abord, sur la productivité qui a justement été abordée par Patrick Artus. Alors, on tremble toujours, quand on est sur le même plateau que Patrick Artus, de donner l'impression qu'on nous ferait une leçon d'économie, parce que ce ne serait vraiment pas de circonstance. Mais comme Patrick le sait mieux que quiconque, une des raisons de la baisse de la productivité, c'est qu'on a massivement recruté des gens qui étaient moins productifs que ceux qui étaient déjà en emploi. Donc c'est le prix à payer pour une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de retours à l'emploi, de gens peu qualifiés, à la productivité faible.
Ah oui, on a eu des créations d'emplois parce que la productivité est en déclin.
Je dis pas que ça n'a que des avantages, je dis que ça n'a pas que des inconvénients. Oui, donc cette baisse de la productivité, c'est quand vous êtes aux États-Unis, vous avez des tas de bras cassés dans l'emploi, c'est un peu contrariant quand on est client, mais enfin c'est quand même formidable pour les gens qui ont un job.
Philippe, il y a 2,5 points par an de gain de productivité aux États-Unis, malgré un taux de chômage des peu qualifiés beaucoup plus bas qu'en France.
Parce qu'eux, ils ont par ailleurs des raisons de faire des gains de productivité. Oui, mais nous, la raison pour laquelle notre productivité a décroché, c'est entre autres, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais c'est entre autres le fait qu'on a remis dans l'emploi beaucoup de gens peu qualifiés dont la productivité est faible. Alors après, sur cette histoire de faut-il ou non tailler pour faire plaisir à l'Europe, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande erreur dans le débat public, c'est de penser que la seule raison d'être un peu vertueux sur le plan budgétaire, c'est de risquer de se faire taper sur les doigts par l'Union européenne ou de déplaire aux Allemands, etc. Non, il faut quand même rappeler aux gens que c'est dans notre intérêt, à nous, qu'on ne doit pas se surendetter. Parce qu'au bout d'un moment, c'est d'ailleurs ce qui se passe exactement là, maintenant, tout de suite, notre conversation en est le témoin, si on paye trop, si on dépense trop en charge de la dette, on n'a juste plus de quoi dépenser pour des questions utiles. J'ajoute que la charge de la dette, comme la dette est malheureusement en France, c'est pas comme le Japon ou l'Italie, largement détenue par des non-résidents, c'est de d'argent qui fiche le camp. Quand on paye des intérêts sur la dette française, ça part non pas à la veuve de Carpentras, mais au fonds de pension canadien, texan ou que sais-je. Donc, il y a d'excellentes raisons de penser qu'il faut cesser de surdépenser. Ça n'est pas, encore une fois, seulement pour être dans les clous de Maastricht. Et si les clous de Maastricht se reculaient et qu'on nous disait, bon, bah, vous, Français, vous pouvez faire des bêtises budgétaires, dépenser autant que vous voulez et accumuler de la dette sans limite, ça ne serait pas une bonne raison pour dépenser sans limite. Notre intérêt à nous est d'arrêter de faire de la dette et d'arrêter de faire du déficit. C'est pas parce qu'on nous le demande qu'il faut le faire, c'est parce que c'est dans notre intérêt. Il se trouve que par ailleurs, on nous le demande. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Donc, c'est quand même un point important. Dernier point, si vous voulez, ce dont on est aujourd'hui spectateur, c'est la différence entre les réformes structurelles et les coups de rabot, sauf qui peut.
Là, c'est du coup de rabot à l'état pur. Hein.
On a en France un problème de dépenses publiques trop importantes, bien documentées, incontestables, c'est énorme. Tous les pays du monde qui ont été confrontés à cette espèce d'impasse budgétaire qui se traduit toujours par une impasse identitaire et par une quasi-crise politique. Et il y avait des pays de droite et des pays de gauche. Pays de gauche, la Suède, la Nouvelle-Zélande. Pays de droite, les États-Unis, le Royaume-Uni, comme on sait, dans les années 80. Il y a des pays, on ne sait pas trop bien si c'était de droite ou de gauche, c'était en tout cas consensuel, le Canada. Tous les pays qui ont été dans la même impasse que nous, tous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des mesures, ils ont pris des mesures courageuses de remise à plat de la dépense publique et de réforme structurelle de la dépense publique. Alors, oui, ça a taillé.
On
ça a taillé.
Attends,
pourquoi on serait les seuls au monde à ne pas savoir le faire ?
Je fais ce métier depuis bientôt 30 ans, j'ai jamais vu une réforme structurelle de l'État.
Oui, je suis bien d'accord. Mais ça,
je pense qu'on fait 60 000 recrutements en 2023.
C'est complètement fou. C'est complètement fou. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. Mais on ne peut pas dire que les Français seraient le seul peuple au monde, le seul système politique au monde qui ne pourrait pas faire et donc ne devrait pas faire ce que tous les autres ont fait, c'est-à-dire de la réforme structurelle. Alors oui, subsidiairement, comme on fait pas de réforme structurelle, on fait ce genre de truc débile, c'est-à-dire qu'on va encore enquiquiner plus Gilles sur son labo, que les doctorants seront encore plus maltraités, qu'ils font trop le camp encore plus à l'étranger, etc., etc. Tout ça est vrai, mais le fait générateur de cette bêtise qui est ce coup de rabot à 10 milliards, c'est que nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire depuis 30 ans, c'est-à-dire une réforme structurelle
bien sûr.
Qui permettrait d'optimiser la dépense publique tout en réduisant le quantum.
On va pas faire les réformes structurelles en l'espace de 15 jours. Là, on est dans une espèce d'urgence de dingue.
Ah non, vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas d'urgence. Alors donc, il n'y a pas d'urgence européenne.
J'ai dit que la façon dont agit Bercy aujourd'hui traduit une forme de panique et d'urgence, comme il disait Patrick.
C'est sûr, ils ont peur de perdre leur rating.
Allez-y, Gilles Raveau, poursuivez sur ce que vous avez en tête, je ne sais pas.
Écoutez, je ne résiste pas, je suis coquin, mais petite citation. L'austérité est une impasse. Cette austérité a mis à genoux des pays européens qui ont mis des années à s'en relever, car lorsque vous faites le choix de l'austérité, monsieur Dose, les premières dépenses dans lesquelles vous coupez sont toujours les dépenses d'investissement, l'innovation, la recherche, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire celles qui garantissent l'avenir d'un pays. Bruno Le Maire, Commission économique du Sénat, 22 février 2022.
C'est vrai?
Voilà.
Wow. Ouais, c'est douloureux.
Non, enfin, là, c'est pas de l'austérité.
Oui,
hein. La contradiction sur les choix des coupes est manifeste, mais on ne rentre pas en austérité.
Philippe, oui, c'est pas. On a 1450 ou 1500 milliards de dépenses publiques, en chercher 10, c'est pas vraiment de l'austérité.
Non.
Bah, quand même, quand on entend les propos du ministre qui est responsable du décret, quelle date, mai 2000 ?
Il y a 2 ans pile.
Waouh.
Bon.
C'est pas remarqué, c'est pas la première fois qu'on voit un politique se contredire.
Par contre, ce que je voudrais dire, et encore une fois, moi je suis, ça fait partie, ça fait des années, c'est pas 30 ans, mais c'est bientôt que je viens ici, et je suis très inquiet sur l'évolution de la dette publique, puisque j'intègre le fait que, contrairement à l'immense majorité de la profession, j'entendais encore un excellent macroéconomiste sur votre plateau il y a quelques semaines nous dire, la dette publique c'est pas un problème, puisque les générations futures vivront mieux.
Hein.
C'est ce qu'on me disait quand j'étais étudiant, c'est ce que j'ai dit au début quand j'étais un
keynésien. C'est la thèse de
Keynésien
Zanicka, ça, non ?
C'était Eric Heyer.
Eric Heyer.
Bon. Il est évident que les générations futures vont vivre bien plus mal, hein, moins longtemps.
On n'en sait rien.
C'est l'évidence même, et ça a déjà très largement commencé. Donc, évidemment, je suis très inquiet par le stock de dette publique, puisque, de mon point de vue, la croissance ne reviendra pas. Je pense même que si la croissance était correctement mesurée aujourd'hui, avec notamment ces très fortes dégradations sur l'environnement, je ne suis pas sûr qu'on aurait vraiment de la croissance économique, encore moins de la croissance économique par habitant, puisque la population continue à augmenter. Bref, je suis très très inquiet sur la question de la dette publique. Par contre, le fait est, et là, la macroéconomie, les lois de la macroéconomie, qui malheureusement, encore une fois, ne sont pas enseignées au lycée, alors que c'est des équations très simples, de type quasiment collège, lorsque vous diminuez la dépense publique, ça s'est passé absolument partout, etc. Patrick Artus le sait ici, effectivement, je suis très impressionné de parler devant lui. Bon, les dépenses publiques, c'est des recettes privées. Quand vous payez un fonctionnaire, il y a de l'argent qui circule dans l'économie. Quand une collectivité construit une piscine, il y a de l'argent qui circule dans l'économie. C'est un fait. Quand vous diminuez ces dépenses publiques, vous diminuez les recettes privées. Donc, sauf si vous aviez, et c'est là le drame macroéconomique de la France, c'est qu'on a un stock d'épargne de dingue. Donc, sur le tableau noir de l'économiste, moi, je vous la fais revenir, la croissance, je vous fais baisser des déficits et des dettes sans problème. Il suffirait que tous nos vieux, tous nos riches, arrêtent d'accumuler et, effectivement, se mettent enfin à investir dans l'innovation, dans la recherche, etc. En termes macroéconomiques, la France est extrêmement riche, mais c'est complètement bloqué. L'argent n'est pas au bon endroit et il ne va pas au bon endroit. Je rappelle donc.
Et voilà une spécificité française.
Oui, mais là, il n'y a pas de solution. C'est de l'argent privé, les gens font ce qu'ils veulent.
Le taux d'épargne US, c'est 3-4% du revenu dispo.
Voilà. Juste un dernier chiffre pour terminer. Ouais. Effectivement, il y a ce truc très contre-intuitif et c'est là pour ça que l'enseignement de la macroéconomie est fondamental. C'est que vous pouvez parfaitement diminuer les dépenses publiques et que votre ratio dette sur PIB augmente et augmente beaucoup. D'accord ? Et donc là, dans cette même audition au Sénat, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Entre 2009 et 2012, il y a de l'austérité en Europe. Il y a de la vraie austérité. En Grèce, c'est un massacre total.
En Grèce, là, c'était
Que fait le ratio dette publique sur PIB dans la zone euro entre 2009 et 2012 ? Il passe de 66% du PIB à 90. À 90. On se prend 25 points de dette publique sur PIB parce que ça, c'est de la mécanique à laquelle personne n'échappe.
Patrick Artus.
Oui, je voudrais rappeler quand même quelques faits sur l'analyse. Si nous avions le taux d'emploi des pays du nord de l'Europe, la Suède, etc., et si cette hausse du taux d'emploi était consacrée uniquement à avoir davantage de recettes publiques, le poids des dépenses, donc on ne dépenserait pas cet avantage en taux d'emploi en dépenses, le poids des dépenses publiques dans le PIB en France serait le même qu'en Allemagne, en Suède, etc. Donc la réalité, c'est que nous n'avons pas trop de dépenses publiques, nous n'avons pas assez d'emplois. Pas assez de gens au travail. Le problème, c'est que les recettes de l'État sont liées essentiellement à l'emploi, hein, et les dépenses de l'État sont liées à la population. Et donc si vous avez un taux d'emploi faible, effectivement, vous avez structurellement un déficit public. Donc on ne sortira du problème de finances publiques que si on fait monter le taux d'emploi. Alors le taux d'emploi a monté un peu, on est à 68% de taux d'emploi, on était à 65% en 2016, mais il est quand même 10 points, 12 points inférieur. 10 points de taux d'emploi, hein, ça fait 14% du niveau d'emploi. Il nous manque 14% d'emplois. Et même si ces emplois, comme le disait Philippe, sont moins productifs, moins qualifiés que la moyenne des emplois, ça fait au moins 10 points de PIB en plus. Donc on aurait 5 points de déficit public en moins, on aurait un excédent budgétaire cette année et on aurait des marges de manœuvre.
Donc la question, c'est comment accroître le taux d'emploi.
La question, c'est toutes les politiques publiques aujourd'hui devraient avoir comme unique objet de faire monter le taux d'emploi.
Bon, on peut considérer que la réforme des retraites, c'était l'un des objectifs.
Oui.
On est d'accord.
La réforme de l'assurance chômage aussi. Honnêtement,
on va en parler justement.
Moi qui ne suis pas un grand macroniste, je trouve que ce que suggère à très juste titre Patrick, c'est quelque chose qu'il me semble ce gouvernement, ce président, ont compris plutôt mieux que leurs prédécesseurs. Alors on est loin du compte. Et puis ça ne nous dispense pas de faire des efforts d'optimisation de la dépense publique. On est tous complètement conscients qu'il y a des redondances, des agences, des machins, que 60 000 emplois publics en plus, vous le disiez Nicolas, c'est complètement lunaire. Je vous rappelle que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, alors il y avait la.
Il devait faire moins 120 000.
L'affreux, c'était Fillon qui voulait faire moins 500 000, tout le monde disait que ça serait la fin du monde, et Macron, qui était raisonnable, disait non, ça c'est des bêtises, moins 500 000, moi je ne ferai que moins 120 000,
50 000 donc, dans l'État.
Et, au lieu de moins 120 000, on fait entre plus 20 et plus 80 000 par an.
En 2019, on avait réussi à faire moins 20 000, et pas, mais après, avec Covid, ça repart.
Oui, c'est ça. Alors le Covid est une excellente excuse temporaire, mais on ne peut pas créer des emplois pour 40 ans, au motif qu'il y a une crise qui ne dure pas 40 ans. Donc tout ça est absurde. Donc on a trahi une grande partie des engagements de départ. Mais je suis vraiment... Alors ce que dit Patrick est très important, c'est-à-dire que le taux d'emploi, ça doit être l'obsession. Mais comment on obtient une amélioration du taux d'emploi ? En grande partie grâce à la compétitivité. C'est les entreprises qui créent des emplois. Oui, et là, on retourne toujours sur le même problème. On va voir, même s'il y a la concurrence entre...
Philippe, c'est essentiellement un problème de système éducatif.
Oui, mais ça contribue à la compétitivité.
À cause de Gilles.
Enfin, voyons. On on a dans le supérieur, on a un problème de budget, et clairement, on dépense incroyablement moins par étudiant que tous les pays comparables, et dans le primaire, le secondaire, etc., il y a un problème de technique éducative qui n'ont pas évolué, etc., et puis il y a un problème d'attitude des enfants, enfin,
c'est un ingrédient, ça n'est pas le seul.
Mais je pense que si on ne réforme pas le système éducatif, on n'arrivera pas à faire monter le taux d'emploi.
Je vous rappelle, Jean-Marc Vittori, le premier, avant 2022, qui disait le premier problème économique de la France, c'est l'école. Alors, avant une réforme de l'école, on va quand même dire un mot de l'assurance chômage, parce que alors là, on est vraiment sur du dur, qui va intervenir maintenant, c'est certain. Je vous donnerai quand même les 2-3 conclusions des propos tenus par Stéphane Carcillo dans l'Opinion. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui, je lui ai demandé de venir vendredi s'il était disponible. Voilà. Lui, en tout cas, il défend l'idée que même si on a un retournement du marché, il faut quand même aller vers cette réforme de l'assurance chômage. Et puis, vous me direz ce que vous pensez des taxis qui ont décidé de bloquer le pays pour sauver leurs 5,5 milliards d'euros de transport sanitaire dépensés tous les ans par l'assurance maladie. À tout de suite.